Le nouveau bac provoque-t-il une crise au lycée ?
Être et savoir, Louise Touret.
Aujourd'hui, nous parlons de l'école et plus exactement du lycée, car demain se déroulent les épreuves du bac, le 20 janvier, oui, avec les E3C du bac 2021. E3C pour épreuve commune de contrôle continu, donc en classe de première. Le bac 2020, c'est en juin pour les élèves de terminale et c'est la dernière édition, entre autres pour les séries S, L et ES. En lisant la presse et en écoutant les prises de parole publiques des enseignants, il semblerait que ce nouveau bac naisse dans la douleur et une organisation difficile pour les lycées. Casse-tête des emplois du temps à la rentrée, difficulté, voire impossibilité d'organiser des conseils de classe en décembre car il n'y a plus vraiment de classe avec le jeu des options, et organisation complexe des épreuves de contrôle continu. On a même vu passer des appels au boycott de ces épreuves, le tout sur fond de conflits sociaux dans l'éducation nationale liés aux retraites. Des appels à la mobilisation ont été lancés pour la semaine prochaine. Alors ça, c'est pour le verre à moitié vide. Peut-être qu'on pourra défendre cette réforme du lycée avec en particulier Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, et se poser la question, est-ce que c'est une question de mise en place ou une question de fond sur cette réforme du lycée et du bac? On va en débattre aussi avec des invités qui sont plutôt opposés ou critiques, enseignants et élèves par exemple. Et puis, dans cette émission, un autre sujet, forcément, il affleure à chaque fois que l'on parle du lycée et de l'orientation, les questionnements et le stress des élèves autour de la scolarité et des choix et de l'avenir, une angoisse qui touche aussi les parents et les enseignants et devrait au fond interpeller, et c'est ce que nous dit Marie-Rose Moreau, notre invitée, interpeller toute la société. C'est la manière dont les jeunes Français abordent leurs études et leur avenir. Pierre Faucillon est sur la prise de son de cette émission et Philippe Baudouin sa réalisation. Avril Ventura prépare Être et savoir avec moi. Elle s'occupe aussi de notre page sur franceculture.fr, page où vous pouvez réécouter ou podcaster toutes nos émissions. Enfin, en fin d'heure, c'est la leçon de choses. Pour tirer le fil d'une histoire, il faut une menace. Sophie Bobert a interviewé l'auteur et illustrateur Grégoire Solotareff. Alors, quelles sont les promesses du nouveau lycée? Les tient-il? Quels sont aujourd'hui les problèmes d'organisation? Et puis, quelles conséquences aussi sur la manière dont les élèves, leurs enseignants et les familles perçoivent leur avenir, leur orientation? Marie-Rose Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous allez être un peu notre grand témoin aujourd'hui. Vous êtes psychiatre, professeur des universités et directrice de la Maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez publié de nombreux livres, vous défendez la cause des adolescents. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut résumer. Vous êtes d'accord?
Tout à fait, c'est une de mes raisons de vivre.
Édouard Geffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire, le DGESCO à l'éducation nationale. Vous êtes un peu le numéro 2 du ministère. C'est à vous que revient aujourd'hui le rôle de nous expliquer et peut-être de défendre aussi la réforme du lycée. Réforme sur laquelle certains enseignants sont très critiques. C'est le cas de William Lafleur.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
On vous appelle aussi Monsieur le Prof sur les réseaux sociaux. C'est votre pseudo. Vous êtes professeur d'anglais dans un lycée de l'Académie de Versailles. Vous avez publié plusieurs ouvrages et le dernier, c'est avec Marie Pellan. C'est un roman. Le Hussard noir, il a été publié donc chez Flammarion il y a quelques mois. Et c'est un roman assez noir d'ailleurs. C'est pas seulement le hussard qui est noir dans cette histoire. Bientôt nous rejoindra une de vos collègues, Gwendoline Honig. Elle est professeure de français dans une autre académie, celle de Créteil. Et puis avec nous également une élève. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Vous êtes élève de première, donc directement concernée. Pour vous, le bac, c'est bientôt, c'est tout de suite même. Vous êtes autrice d'une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer. Elle a été publiée sur le site de Mediapart. Elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Pour commencer peut-être, parce qu'on a envie de vous entendre, vous qui êtes la première concernée, qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui autour de ces épreuves qui vont commencer, les E3C?
Donc moi, les épreuves, ça commence pas lundi, ça commence en février, la semaine du 3 février, en même temps que les épreuves de bac blanc de français. Donc pour l'instant, on a déjà fait des bacs blancs en langue, mais pas en histoire. Et puis les épreuves pour l'histoire et la géographie sont encore assez floues. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Et là, moi, je sais que dans ma classe, par exemple, on n'a pas le temps de faire de bac blanc. Et quant au sujet de langue, ce qu'on a déjà entendu en bac blanc, on les a trouvés assez compliqués. Et quand on en a parlé aux professeurs, ils ont dit qu'effectivement, pour eux, c'est un niveau assez élevé pour nous, en tout cas, les sujets.
Quelle est la différence entre un bac blanc pour vous et une épreuve de E3C qui compte pour le bac, sachant qu'on parle de contrôle continu aujourd'hui?
Il y en a une qui est plus officielle que l'autre. C'est qui est sûr, on la passe dans différentes conditions, parce que quand ça fait partie du contrôle continu, c'est un contrôle qu'on a un peu l'habitude de passer depuis qu'on est à l'école. Donc c'est plus officiel. Après, je suppose que ça compte pas autant dans le contrôle continu et dans la moyenne finale. Mais sinon, les différences, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas encore passé 2-3C.
Donc en fait, tout compte. C'est ce que je cherchais un petit peu à vous faire dire. Marianne, dans votre lettre ouverte, vous parlez de questions sans réponse. Quelles sont les questions que vous vous posez en ce moment?
Ouais, les questions qu'on se pose, c'est sur quoi on va tomber, à quoi vont ressembler nos sujets, déjà. Parce que les autres années, on avait des annales. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai passé le brevet, bon, c'est pas exactement la même chose que le bac, mais j'avais des annales, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Là, pour l'histoire et la géographie, je sais pas du tout à quoi m'attendre, par exemple.
William Lafleur, vous qui êtes enseignant, est-ce que vous avez l'impression, avec vos élèves, d'essuyer un petit peu les plâtres d'une toute nouvelle réforme qui ne serait pas tout à fait bien mise en place?
Ben oui, le problème, c'est que c'est pas nous, le prof, qui essuyons les plâtres, mais c'est bien les élèves. Et ce que j'ai apprécié dans ta lettre, c'est que tu te considères comme un cobaye. Et c'est un peu l'idée, c'est qu'on a l'impression que tout est fait un peu au fur et à mesure, on découvre. Et nous-mêmes, profs, là, on est censé rassurer les élèves en leur disant, voilà, c'est sur ça que vous allez tomber, c'est tel type d'épreuve. Mais on n'en est pas sûr. Et du coup, les élèves, parfois, nous posent des questions, surtout sur ce qui arrive à la fin de l'année ou l'année prochaine, en terminale, parce qu'en première, on se projette quand même, et on ne peut pas leur répondre, quoi. Et là, par exemple, en spécialité anglais, je leur fais faire un cahier de culture, comme indiqué dans le bulletin officiel, et ils me demandent à quoi ça sert, et je ne peux pas leur répondre. Donc je me sens un peu idiot face à eux. Et en tant que prof, c'est assez difficile.
Ce qui a aussi un prof ignorant ou un maître ignorant pour reprendre une formule connue. Plus sérieusement, ce qui a été aussi un petit peu compliqué pour les élèves, c'était le niveau de certaines spécialités. Alors cette question se pose en anglais, elle se pose également en mathématiques. Du côté des enseignants, qu'en dit-on, William Lafleur?
Alors justement, j'ai fait un petit appel à témoignage sur. Comment est-ce que les collègues reçoivent ça? Et donc moi, je ne suis pas enseignant de mathématiques. Pour moi, c'était déjà compliqué quand j'étais élève, donc non merci. Donc j'ai des témoignages, par exemple, de collègues qui disent « Les élèves en maths sont dans un état de stress pour Parcoursup. Pour le moins de stress, il faudra repasser. Les maths sont devenues infaisables en classe de première au regard du volume horaire imparti. Les très bons élèves ne s'en sortent pas. Les plus fortunés se payent des cours supplémentaires. Ça, on a beaucoup une explosion des cours supplémentaires. Alors, c'est peut-être bien pour eux, mais c'est hélas pas très égalitaire. Le problème est connu. Et j'ai lu dans la note d'information du lycée qu'il y avait un lien officiel du ministère en guise de soutien ouvert aux élèves. Donc ça veut dire que le ministère est déjà un peu au courant de ces difficultés.
Bon, on va vous répondre dans un instant avec Édouard Geffray, mais Gwendoline Honi, qui est avec nous, qui est professeure de français. Bonjour, puisque vous venez d'arriver, il y a un petit peu des embouteillages. Pas
retard.
De souci. Vous faites partie d'un groupe qui s'appelle les Stylos Verts. Donc, ce sont des enseignants qui, par principe, disent qui ne sont pas hostiles aux réformes. Et moi, j'étais contente d'inviter un enseignant pas hostile aux réformes. Et pourtant, vous pointez aussi des difficultés dans votre lycée concernant ces épreuves et puis le déroulé de cette année de première. Alors, comment ça se passe pour vous dans votre établissement, tout simplement?
Alors d'abord, je voulais revenir sur cette idée de groupe de stylo vert. C'est difficile parce que dans la société aujourd'hui, on imagine toujours les enseignants comme des râleurs, comme des personnes qui sont hostiles aux réformes. On parle souvent du mammouth qu'est l'éducation nationale. Et en fait, on est les premiers à vouloir changer les choses et les changer pour le bien notre bien-être, évidemment, puisque c'est notre travail et c'est 70% de notre temps dans notre journée, mais bien sûr, en priorité, le bien-être des élèves avec qui on travaille tous les jours. Donc, on a voulu faire ce groupe d'abord bah, aussi pour pointer du doigt qu'il peut y avoir des choses positives et qu'on peut se réjouir de certains changements. Et pour compléter, ça répondait aussi à un autre groupe qui s'est beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux et qui s'appelait les stylos rouges, qui s'appelle toujours les stylos rouges et dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière.
Et évidemment, c'est aussi pour rire, pour donner un peu de légèreté dans les débats qui sont toujours plus lourds aujourd'hui dans notre... Dans notre quotidien, dans les médias, il y a beaucoup de tensions, de désaccords. Et on a voulu mettre en avant des choses qui pouvaient être parfois positives. En ce qui concerne mon établissement, donc moi je suis au lycée Joliot-Curie à Damary-les-Lys dans le 77. Et nous sommes de nombreux enseignants à être à la fois en désaccord sur un certain nombre de choses de la réforme actuellement. Et pourtant très mobilisés, très à l'écoute de nos élèves, de leur bien-être, vraiment. Et on essaye de mettre en place des solutions pratiques, du suivi, des initiatives différentes. Je tiens par exemple à évoquer qu'on a occupé le lycée un mercredi soir où on a fait une séance Twitch avec nos élèves et les parents d'élèves qu'ils souhaitaient pour répondre à des interrogations concernant cette réforme technique. Les élèves qui n'arrivaient pas à comprendre quand est-ce que c'était le bac blanc, quand est-ce que c'était les E3C et qu'est-ce qu'il fallait réviser et combien ça pesait tant et tant. Donc on essaye d'abord, et j'imagine que mon collègue fait la même chose, on essaye d'abord au plus urgent de répondre aux élèves quand on est en classe. Et puis le reste du temps, on réfléchit collectivement ou individuellement à voir ce qu'on peut faire avec ce qui nous est imposé en fait aujourd'hui. Et une des réflexions qu'on avait avec une collègue, c'est que c'est une réforme où certes il y a eu des consultations d'associations d'enseignants, mais quand on lit le rapport Mathiot, et c'était ce que j'ai trouvé le plus...
C'est le rapport préparatoire à la réforme du bac rapport de Pierre Mathiot.
C'est ça qui a permis donc ensuite la mise en œuvre de cette réforme. Et voilà. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a eu une consultation que je trouve excellente, cette consultation des élèves en amont de la réforme, en leur demandant est-ce que vous voulez la fin des filières ? Est-ce que vous voulez qu'on mette en place un système de contrôle continu ? Donc ça, il y a des visuels qui sont très, 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 très éclairants. Pourquoi ne pas avoir fait exactement la même chose auprès des personnes dont c'est le métier ? Pourquoi pas avoir fait une vraie consultation numérique
des enseignants ?
Pourquoi ? Peut-être que si on avait eu les deux, ce qui aurait pu être mis en place en termes de changement positif dans tout ce qui est dysfonctionnel sur cette année particulièrement de transition, elle aurait pu être un peu plus préparée, alors, accompagnée.
Édouard Geffray va vous répondre, mais pour être clair, qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui à la veille des épreuves, des fameux E3C, épreuves du bac 2021 pour les élèves de première?
Alors, pour moi, je suis professeure de lettres, donc je ne suis pas concernée par les E3C.
William Laffer va nous répondre aussi, peut-être.
Je pense qu'il est plus compétent à la matière.
Alors, il y a beaucoup de choses, la liste peut être longue. Sur les E3C directement, il y a le problème d'égalité entre les établissements qui se pose, dans la mesure où on a une banque de sujets qui a été ouverte le mois dernier, déjà c'est un peu tardif pour s'y préparer, qui est ouverte à tous les professeurs. Et j'ai reçu des messages comme quoi certains professeurs décident déjà d'indiquer à leurs élèves quel sera le thème ou quelle sera la forme du sujet. Alors que dans certains établissements, ça ne sera pas le cas. Dans le nôtre, notamment.
Message que vous m'avez transmis, donc j'ai une capture d'écran, effectivement, d'un échange de messages.
Voilà, et j'en ai reçu d'autres.
Un sujet est donné.
Voilà, j'en ai reçu d'autres depuis qui m'ont dit c'est la même chose pour nous, nous on donne, la telle info, nous on donne pas. Donc déjà, disparité sur le traitement des candidats. En plus, il y a le problème de la préparation. Ces épreuves, elles arrivent donc en janvier. Nous, en tout début d'année, en septembre, on nous a dit c'est pour mars. Donc moi, quand j'ai fait ma progression, j'ai prévu ça de faire en mars. Pas de bol, j'ai 2 mois de moins que prévu. Donc là, on est tous dans le même cas, les collègues de mon lycée. En janvier, là, on court après le temps parce qu'on n'a pas le temps de préparer ces épreuves, qui en anglais sont complexes. En première, maintenant, on fait un mix entre compréhension orale, expression écrite. Il y a la moitié de l'épreuve qui est en français, la moitié de l'épreuve qui est en anglais. Il faut les préparer à ça, c'est compliqué. Et puis, je ne sais pas, moi, l'anglais, en fait, c'est une langue de communication, ce n'est pas une langue d'examen. Donc on les prépare plus à passer des examens. Là, depuis 3 mois, je fais que ça. Et je fais pas vraiment d'anglais culturel ou autre. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, ça, c'est les premiers problèmes. La liste pourrait continuer.
Marianne, en un mot, parce que la rupture d'égalité, vous en parlez aussi dans votre lettre. En tant qu'élève, ça vous interpelle ?
Bah oui, en tant qu'élève, ça m'interpelle parce que je vois pas pourquoi moi, qui suis dans un lycée, je serais plus avantagée que quelqu'un qui est dans un autre lycée, qui a, je sais pas, une moins bonne réputation ou on n'a pas les mêmes conditions, en fait. Pour moi, le bac, c'est national pour qu'on ait tous les mêmes chances de réussir. Et l'école, ça sert à ça, ça sert à nous donner à tous les mêmes chances de réussir. Et que déjà, en partant d'un endroit, notre parcours soit pas décidé dès le lycée parce qu'on est né, on a eu la chance d'être né à côté dans mon lycée, on a eu la chance d'être né au bon endroit, donc on va avoir des bonnes universités, donc on va être mieux considéré sur Parcoursup. Enfin, c'est pas normal, moi je trouve.
C'est déjà un peu le cas d'après ce qu'on sait du tableau dressé de l'éducation en France par les sociologues de l'éducation, hélas, Édouard Geffray. Alors, il y a vraiment deux sujets qui se superposent, à la fois une question d'organisation et puis en même temps une question de fond sur, par exemple, cette rupture d'égalité, ce niveau dont on ne sait pas très bien ce qu'il va être suivant les établissements.
Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de répondre un peu à plusieurs choses qui ont été dites.
Là, vous êtes là pour ça.
La première chose, c'est que je voudrais remercier Madame professeure de lettres pour ce qu'elle a dit sur le fait que l'éducation nationale n'est pas un pachyderme préhistorique, mais que c'est une institution qui est à la fois au service de ses élèves et qui est réactive. Et il faut quand même l'avoir à l'esprit parce qu'il y a trop de
caricatures. Mais ça, je pense que tous les enseignants le pensent aussi.
Oui, mais j'aimerais que tout le monde le pense au-delà des enseignants. Et donc, on est tous bien d'accord là-dessus, mais c'est jamais mauvais à rappeler. Donc, c'est une chose qu'on partage profondément. Et donc, je me permets de le rappeler. Deuxième chose, donc, il y a effectivement des inquiétudes qui ont été exprimées, notamment par Marianne, sur le fait que ce sont les premières épreuves, que c'est la première année, etc. Alors, oui, c'est effectivement la première année de mise en place de la réforme du bac. Donc, qui est à cet égard...
C'est plus difficile.
C'est pas plus difficile à passer, mais c'est logique qu'il y ait des inquiétudes spécifiques, y compris de la part des professeurs ou des proviseurs, qui disent, moi, c'est la première fois que ça va se passer comme ça. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs, pour autant, ne savent pas faire, puisqu'en fait, c'est presque, ou en tout cas, ce sont des difficultés à faire. Je vais venir après aux élèves, qui sont les plus importants, mais quand même. Les professeurs, d'abord, il faut quand même leur faire confiance. C'est leur métier, ils savent former leurs élèves, ils savent les préparer, ils savent évaluer. Je rappelle qu'en langue vivante, on était déjà en contrôle continu. Donc on n'est pas sur une découverte. Ça fait des années qu'on est en contrôle continu pour le bac sur les langues vivantes entre la première et la terminale. Le fait qu'il y ait une banque nationale de sujets est une garantie à la fois en termes de niveau, puisque ces sujets ils ont été travaillés par des gens qui sont devant élèves, par des professeurs. Ils n'ont pas été inventés par des gens qui ne seraient pas professeurs dans une hypothétique administration centrale. Ils ont été faits par des professeurs qui sont devant élèves. Et ils ont été faits de manière collégiale pour s'assurer de l'homogénéité et de la cohérence des niveaux.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème de délai, puisque ce que soulignent les enseignants, c'est que certains sujets paraissent avoir été rédigés un peu rapidement, qu'il y a
alors,
des coquilles.
La banque,
je remonte les interrogations qui ont circulé.
Alors, il y a une banque nationale de sujets, comme vous l'a dit M. Lafleur, qui est accessible à tous les professeurs des disciplines concernées, qui contient à ce jour 1700 sujets sur l'ensemble des disciplines concernées, 400 ou 500 500 en histoire géographie pour la voie générale, 350 sur la technologique, plus de 200 en mathématiques, etc., etc. D'accord. Et donc, il y a un double effet intéressant. Un, en termes d'égalité, puisqu'on en parlait, garantir à tout le monde qui passe un sujet de niveau équivalent. Deux, faire en sorte aussi que les professeurs puissent précisément avoir accès à une banque de sujets qui leur donne le niveau d'exigence. Cette banque, elle a été ouverte à l'ensemble des professeurs concernés le 9 décembre. Ce qui leur laisse au minimum 6 semaines, 7, 8 si on prend le cas de Marianne qui passe début février, pour choisir des sujets. D'accord ? Lorsque nous étions élèves de première ou de terminale, je ne crois pas qu'on n'était pas stressé de passer un bac blanc. C'était un vrai stress. Moi, mon premier bac blanc, en tout cas mon premier oral blanc de français, je ne faisais pas le malin, clairement. On n'avait pas forcément tout cet outillage autour.
Je peux juste vous interrompre
un
instant.
Bien sûr, au contraire.
Vous parlez du bac blanc, justement,
de Honig.
Oui. Vous parlez de votre premier bac blanc. Et justement, moi, c'est la petite chose. Je suis prof de français. Donc, effectivement, je vois le stress qui est généré sur les classes de première, qui est un bon stress au sens où il est moteur et il enclenche, en fait, des réflexes progressivement, surtout sur l'épreuve de français où on a de l'écrit, de l'oral. Ça demande de panacher des compétences très variées. Et effectivement, que ce soit sur les classes technologiques ou les classes générales, j'ai les deux. En tout cas, j'ai eu les deux cette année. J'ai qu'une première générale, mais souvent c'est un déclencheur qui fait qu'après les élèves, ils ont compris ce que c'est que le bac et ils réussissent à s'organiser dans leur révision, à comprendre qu'il y a que en fait leur bac blanc c'était une évaluation formative, c'est-à-dire c'était un devoir qui était stressant certes, mais qui était l'occasion pour eux de faire l'expérience d'une méthodologie qu'ils sont en train d'acquérir au fur et à mesure de l'année. Or, ce qu'il se passe avec les E3C, je pense particulièrement, notamment en histoire géo, qui est une matière qui est assez proche de la mienne, finalement, puisqu'on attend des compétences aussi de rédaction. On va être, malheureusement, on n'est plus dans la dissertation en histoire géo, on est venu avec la question problématisée. Mais en fait, ces premières qui auparavant ne passaient en classe de première que cette épreuve de français et pour certaines filières comme la SES, ils passaient également l'enseignement scientifique et les maths. Maintenant, pour la plupart, donc pour les S et pour les L, ils avaient uniquement, non pas pour les L, enfin pour la plupart des premières, il n'y avait qu'une ou deux épreuves. Et là, en fait, ces épreuves blanches, puisque les E3C se sont un peu reconvertis comme des sortes de bacs blancs généralisés en première et en terminale, mais ça démultiplie les épreuves. Je prends l'exemple des filières technologiques qui, là, dans mon lycée, vont être obligées de passer une épreuve d'histoire, une épreuve de mathématiques, deux épreuves de langue, plus leur bac de français. Donc, ils sont passés finalement d'un stress qui était de deux ou trois matières où ils bricolaient un peu pendant les vacances de décembre pour préparer leurs épreuves à un désarroi total de savoir comment s'organiser. Et ça pour le coup, c'est effectivement générateur, je pense, de stress.
Marianne, vous acquiescez ?
Oui, je suis d'accord.
D'accord, en tant qu'élève, c'est important. Édouard Geffray vous répond, mais j'aimerais beaucoup faire réagir Marie-Rose Moreau.
Mais comme je me mets à mots, c'est vraiment important. Je rappelle que dans l'ancien système, on avait un rush, un premier rush en première, un petit rush, comme vous le disiez, et un gros rush en terminale. C'est-à-dire que tout le monde jouait grosso modo son bac sur une semaine.
Dans la et précipitation, non, si on veut traduire le mot rush.
Non, mais ceux qui comme un certain nombre d'entre nous autour de la table, mais il y en a qui n'ont pas vécu. Marianne, si elle a vécu l'ancien bac, aurait vu ce que c'était aussi que le stress qui consiste à tout jouer quasiment sur une semaine d'épreuve en fin de terminale. Ça, c'est fini. Chaque épreuve est importante parce que c'est le bac, oui, mais aucune n'est rédhibitoire parce qu'une épreuve de 3C, ça pèse 1,67% la note finale.
Oui, mais ça, d'accord, c'est des chiffres.
Certes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi à nous, et là pour le coup je dis à nous collectivement, c'est-à-dire enseignants, non-enseignants, parents, etc., de rappeler aux élèves le poids réel de ces épreuves. C'est-à-dire oui, effectivement, c'est une évaluation, mais qui est là pour, j'allais dire, assurer la régularité des apprentissages, ne contrôler que les apprentissages, n'évaluer que les apprentissages qui ont déjà été faits, et pas faire un récapitulatif sur un an hyper lourd. Et ensuite, qui pèse très peu dans le bac, parce que l'idée, c'est pas de jouer à pile ou face son bac selon qu'on était en forme ou pas ce jour-là.
Marie-Rose Moreau, je pense qu'on est les deux seules autour de cette table à avoir passé non pas l'ancienne version du bac, mais celle d'avant. Ce qui est toujours paradoxal, c'est qu'on dit oui, il faut relativiser. Et en même temps, dès qu'on parle de préparation d'examen, c'est stress, désarroi, angoisse. Ce sont des mots qui ont été prononcés par les invités autour de cette table. Je rappelle que vous êtes psychiatre et surtout spécialiste des adolescents.
Oui, c'est ça. Il y a deux, en tant que psychiatre d'adolescent, il y a deux niveaux qui me touchent. Premièrement, effectivement, le stress de tout le monde, c'est un stress généralisé, c'est-à-dire les élèves derrière leurs parents. Et les enseignants. Alors, je dirais que chaque fois qu'il y a du nouveau, chaque fois qu'il y a une réforme, il y a une sorte de, c'est une incertitude. Mais là, il y a quelque chose, ce qui est le plus communément partagé, c'est le stress non seulement de l'incertitude, mais de la complexité. Et le deuxième point qui me concerne beaucoup, y compris pour mes patients, c'est que c'est cette réforme où il y a beaucoup de contrôle continu et puis différentes formes, comme vous l'avez dit, fait que ceux qui ont qui pendant l'année de première ou de terminale vont avoir des moments de vulnérabilité, d'inquiétude, de maladie, etc. Et ça, dans cette phase de transition, la vulnérabilité, ça fait partie de la vie des adolescents. Eh bien, alors au jour d'aujourd'hui, par exemple, pour mes adolescents et leurs parents, on ne sait pas comment ça va se passer pour eux. C'est-à-dire que cette idée que, par exemple, un adolescent doit s'arrêter 2 mois, là, maintenant, parce qu'il n'y arrive pas. Dans l'ancien système, 90% des adolescents qui étaient hospitalisés chez moi avaient le bac avec mention quasiment. C'est-à-dire ils arrivaient à retrouver toujours, puisqu'il y avait aussi un accompagnement de la scolarité. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc ça, c'est des questions, je pense, qui augmentent. Il y a le stress de tous et le stress de ceux qui vont présenter. Et il y en a beaucoup, puisque par définition, c'est une période où il y a plein de petits événements et de grands, mais y compris de petits événements, qui entraînent de la vulnérabilité et donc de la singularité. Et ça, je crois que ça contribue énormément aussi à l'inquiétude généralisée.
Et moi, j'écris le temps qui passe.
Et toi, tu vis tout ce qu'on s'est dit.
La nuit, la lune, le feu, l'orage.
Dans les rues sombres, on bat l'ennui.
C'est dans ta tête que tout s'efface.
Les bons moments, mes fautes, ta rage.
Et on se rejoint à la sonnerie.
Crier l'espoir,
ma nostalgie.
J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. Embrasser ma solitude
avec lui seulement.
Paradoxe et plénitude
avec toi doucement.
Parcourir la ville
dans la nuit, le vent.
Allongé, immobile.
Combattre le temps.
Grimper, courir
avec toi, fuyons.
Sauter, danser
dans la pluie, souvent.
Pleurer, ternir.
Je partir longtemps.
Fuir l'ennui.
Juste un instant.
J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui.
Dans le soir, puis dans la nuit.
Puis finalement,
il n'y a que toi, tes souvenirs, ton cœur en manque. Alors tu pleures et tu effaces le temps qui passe, celui qui lasse.
Nuit, en deux mots, c'est le titre de cette chanson de Vidéo Club, un groupe qui, d'après mes calculs, vient juste de passer le bac, puisque les deux membres ont eu 18 ans en 2019. Et le bac, le lycée, c'est le sujet de ce numéro d'être à savoir. Belle transition, non? Alors, on parlait du stress et de l'angoisse qui peuvent être liées aux questions non seulement d'examen, comme le baccalauréat, mais aux questions de choix, de l'orientation, un stress qui touche les élèves, mais aussi beaucoup les parents. Vous l'avez dit, Marie-Rose Moreau, vous qui suivez beaucoup d'adolescents à la Maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Et ce qui est remonté aussi de cette réforme du lycée, c'est que les spécialités s'imposaient un petit peu aux lycéens en fonction de ce qui était disponible dans les établissements et aussi un petit peu en fonction de ce qui était perçu comme de bons choix de bons choix d'orientation, de bons choix pour le futur. Ça, c'est pas complètement nouveau. D'ailleurs, ce fait de choisir à toute force des matières scientifiques qui paraissent ouvrir plus de portes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, Marianne, dans vos choix d'orientation ou dans ceux de vos camarades, d'ailleurs, pour cette classe de première?
Alors moi, dans mon lycée, on avait vraiment toutes les spécialités.
Oui, c'est un grand lycée. Voilà, hein,
on pouvait choisir ce qu'on voulait. Donc sur le choix des spécialités, moi, je n'ai pas vraiment rencontré de problème. D'autant plus que mon choix, il a été assez évident.
Et sur les choix de matières scientifiques, de matières littéraires, sur les mix qui sont censément plus libres hein, avec la réforme?
Ah oui, il y en a qui font... Dans ma classe, une fille, elle fait SVT, physique et LCE, puis ça ne va pas poser de problème. Et puis elle abandonnera LCE en terminale, je
LCE, crois. LCE, tout le monde sait ce que c'est.
LLCE, littérature et culture étrangère.
C'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Parce que si on arrête, c'est ce qui va se passer. Beaucoup prennent anglais LLCE.
William Lafleur, prof d'anglais.
Et beaucoup d'élèves nous disent, voilà, on prend ça en première, on sait très bien qu'on abandonnera, donc ils sont extrêmement motivés pour lire des bouquins en anglais, en sachant qu'ils vont abandonner à la fin de l'année. Donc voilà, parce que leur but, c'est d'avoir les matières scientifiques, donc SVT, physique ou maths, et qui sont les vraies matières pour l'orientation. Quoi. Même si on a changé la forme, et même s'il n'y a plus S, ES et compagnie, bah dans le fond, on y est toujours.
C'est et un compagnie, peu j'en profite pour annoncer que nous organisons bientôt une émission entièrement consacrée aux maths et au niveau des élèves français en mathématiques. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet qu'il faudra absolument que vous écoutiez tous cette émission. Gwendoline Honig, vous qui êtes professeure de lettres français, sur la place aujourd'hui du français. On sait que les filières littéraires avaient beaucoup baissé, peiné à recruter. Est-ce que cette réforme peut apporter plus d'élèves qui prendraient des options ensuite aussi de philo, de cette nouvelle matière qui mêle aussi les lettres et la philo et qui est proposée avec ce nouveau bac?
Alors, je vais répondre à votre question par une autre question que je vais d'abord poser aux personnes qui ont déjà leur bac et qui sont autour de cette table. Moi, ce que je trouve à la fois fascinant, vraiment quand j'ai vu cette idée où on supprimait les filières, j'étais jalouse. Je me suis dit, mais moi, j'aurais trop aimé pouvoir faire de la bio, parce que ça m'intéressait, la bio, et humanité philosophique. Le problème, c'est que j'aurais été obligée de choisir trois spécialités et d'en abandonner une dernière. Donc, j'aimerais vous inviter, avant de continuer ma réponse, à réfléchir à vos choix. Si aujourd'hui, vous étiez un élève de seconde et que vous deviez choisir vos spécialités, parce que je suis à peu près certaine que mes choix aujourd'hui n'auraient jamais pu me permettre de me conduire à l'agrégation de lettres modernes. Et ça, j'en suis certaine.
Alors, moi, je réponds, je prendrais le même bac. A1, c'était maths et philo. Et c'est un superbe bac qui a été supprimé par la suite. Enfin, avec elle, on ne pouvait plus exactement faire autant de mathématiques en prenant une filière littéraire.
D'accord.
C'est une très, très vieille option. Mais peut-être Édouard Geffray peut vous répondre déjà sur ce point.
J'aurais fait un choix proche de ce que j'ai fait. J'étais en spécialité maths, mais je pense que j'aurais fait un petit peu moins de maths et j'aurais fait beaucoup plus de philo, en fait. Donc j'aurais pris une spécialité humanité.
Le fait que même les élèves qui intègrent des classes préparatoires littéraires ou qui vont se diriger vers des facs de lettres ou de langues choisissent quand même les mathématiques, voire les mathématiques renforcées. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui parce que ces mathématiques renforcées sont extrêmement difficiles et c'est aussi une des problématiques qui remonte de la réforme du lycée. C'est ce niveau et cette difficulté à suivre pour beaucoup d'élèves.
Alors, c'est juste une spécialité maths, il n'y a pas de mathématiques renforcées. Ça, c'est en terminale qu'on prend l'option mathématiques expertes. Juste, pardonnez-moi, parce que tout à l'heure, on a entendu c'est un peu triste, c'est comme s'il y avait ES et L qui étaient reconstitués. C'est faux. Hier, on avait 52% des élèves qui étaient en S, 52%, avec un déterminisme social monstrueux. C'est-à-dire quand on était grosso modo dans les classes moyennes, classes moyennes supérieures, les enfants faisaient S prioritairement, et puis ailleurs, c'était surtout S, et puis un peu de L. Donc il y avait quand même un déterminisme social monstrueux. Aujourd'hui, on a 28% des élèves qui ont pris une combinaison maths, physique, chimie, SVT. C'est-à-dire qu'on a quasiment divisé par deux le nombre de gens qui voulaient reconstituer les ex-S. Et on a en revanche 456 combinaisons différentes sur tout le territoire. Ça veut dire que vous prenez tous les élèves de France, il y a 456 triplettes, comme on dit, différentes. Donc, se dire on a quasiment reconstitué la même chose, etc., pour le coup, c'est faux. La moitié des élèves sont dans une triplette différente.
Non, mais je le dis parce que c'est très important. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, Et si la réforme continue de s'appliquer, et après tout, pourquoi ce ne serait pas le cas, est-ce que vous pensez donc que de plus en plus d'élèves vont faire des choix de triplettes différents, singuliers,
individualisés? Ah, mais j'en suis convaincu. Si la première année, vous arrivez à ce que 50% des élèves fassent un choix différent et donc s'abstrait aussi d'un modèle, notamment familial, hein, où on sait que les parents jouent un rôle assez déterminant dans les choix dans ce domaine. Si 50% arrive à s'en abstraire dès la première année, mais je suis convaincu que à l'horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va être encore plus important. Et c'est très bien.
Alors, je me fais l'avocat des parents. Je pense que si les parents le font, c'est parce que toute la société, et y compris les écoles, tout simplement, et leur recrutement, demandent ces spécialités. Oui. Et c'est souvent écrit noir sur blanc.
Et vous ne trouvez pas, excusez-moi de vous interrompre, Gwendoline, vous ne trouvez pas que c'est un peu gênant quand même de se demander, à un élève de 15 ans c'est ça, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, c'était là où je voulais en venir en fait. C'est que quand j'avais 15 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai su que je voulais être enseignante, professeure de lettres modernes. J'étais en classe préparatoire, je venais de QB et j'avais fait exprès d'aller en classe prépa, pas parce que j'étais particulièrement brillante, mais parce que je voulais pas choisir. Et c'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous auriez choisi, parce qu'en fait, il peut y avoir des élèves qui ont envie de ne pas choisir parce que c'est angoissant. Et je veux ajouter aussi autre chose, je l'ai noté sur mon papier, ce que je trouve dommage, c'est mon avis à moi, c'est pas celui de enfin, je représente personne ici, c'est vraiment un avis tout à fait personnel. Moi, quand j'ai vu cette idée de réforme des spécialités, de me dire qu'on pouvait se faire, en fait, finalement, une scolarité un peu presque à la carte, en se disant, bon, ben voilà, on va pouvoir avoir des cours de ce qui nous intéresse. Ben, je me suis dit que ce serait extrêmement chouette de pouvoir aussi faire, de faire sciences politiques et de pouvoir faire du marketing et du management à côté. Et aujourd'hui, alors j'entends bien que les filières technologiques ont été rénovées, mais en fait, théoriquement, on ferme des portes à des élèves de général qui vont finir en école de commerce et qui, en fait, quand ils vont arriver dans certains BTS ou dans certaines écoles de commerce, ils vont être moins compétents que certains élèves en STMG, par exemple. Et de même, un élève qui aura fait S, il sera moins compétent quand il va arriver dans certaines formations de médecine qu'une élève qui aura fait, effectivement, les filières ST2S. Oui.
Enfin, aujourd'hui, il faut juste qu'on fasse attention parce que chacun regarde avec ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'on projette notre modèle de sélection à l'université, en classe préparatoire, etc., etc., qui était donc issu d'un modèle de lycée où j'avais, dans la voie générale, trois filières principales, sur un système dans lequel j'ai des spécialités, un bouquet de spécialités où tous mes candidats vont arriver avec des profils différents. Et c'est tout l'intérêt, c'est que le supérieur ne s'enferme pas dans des spécialités, mais qui s'ouvre justement pour éviter que les élèves aient à se prédéterminer professionnellement dès la seconde. Ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils sont bons là-dedans, que ça leur plaît, ils sont pas enfermés dans un modèle. Mais ensuite, en arrivant dans le SUP, toutes les portes sont ouvertes.
Mais c'est exactement ce qu'on met aujourd'hui. Alors, c'est pas le message que les enseignants entendent. Quel message les élèves entendent, Marianne? Est-ce que vous avez eu l'impression de faire des choix un petit peu tôt?
Moi, je sais qu'au début de l'année de
maturité.
Au début de seconde, on m'a donné un papillon, on m'a dit, tu mets les spécialités que tu veux faire, tu mets les métiers que tu veux faire. Donc moi, on m'a demandé de savoir ce que je voulais faire en seconde. Et en seconde, moi, je ne savais pas. Donc maintenant, j'en sais un peu plus parce que du coup, j'ai cherché pour savoir vers quoi je pouvais m'orienter. Mais moi, je ne savais pas en seconde. Il y en a qui ne savent toujours pas. Et moi, pour le coup, on me l'a vraiment demandé très tôt, le métier que je voulais faire.
Et qu'est-ce que vous voulez faire?
Moi, je veux faire soit du journalisme, soit devenir prof.
Bienvenue chez les journalistes et les profs autour de la table.
On est en manque de profs, justement.
Alors, on en connaît qui veulent partir.
On va en parler du recrutement des profs, mais on était sur ces questions de choix et Marie-Rose Moreau, vous en parlez aussi. Troubles et malaise des adolescents devant l'avenir. Je reprends vos mots. Trop d'enfants renoncent à leurs rêves sous la pression.
Ah oui, alors moi, effectivement, je suis très sensible à cette question du fait que un certain nombre d'adolescents, on l'a d'ailleurs bien dit, pour certains, il faut un peu plus de temps. Il faut pas, en seconde, la plupart du temps, on n'est pas capable, en tous les cas, de prendre des décisions définitives. Il faut que les adolescents, dans cette période-là, aient le maximum de possible, en fait, hein, et qu'il y ait une possibilité d'expérimenter, de se confronter, d'imaginer. Et je suis souvent très triste pour les adolescents que je vois de me rendre compte qu'ils ont renoncé très tôt à un certain nombre de leurs rêves ou même de leurs engagements. Parce qu'ils étaient pas assez bons dans telle chose, parce qu'il y a une hiérarchie des disciplines qui est absolument incroyablement forte, que les parents sont très inquiets face à ce que ça va signifier pour leurs adolescents de faire des choix, par exemple des choix littéraires ou même des choix liés à des choses technologiques. Donc ils sont souvent très inquiets et je raconte souvent quelque chose qui est un fait avéré mais presque difficile à se représenter. Un certain nombre d'adolescents rentrent, viennent me voir parce qu'ils sont en difficulté. Et dans le travail qu'on va faire avec eux, ils changent de filière.
Dans le travail thérapeutique.
C'est-à-dire qu'ils s'autorisent, par exemple, à s'imaginer faire de la philosophie plutôt que des mathématiques ou inventer des bijoux plutôt que de devenir ingénieur. Je prends des exemples réels. Et dans ces changements, c'est des changements où ils se sont appropriés un bout de leur rêve, en fait. Mais pour des raisons qui sont des raisons sociales ou des raisons familiales, ils n'étaient pas en mesure d'imposer et même de se le dire parfois à eux-mêmes, d'imposer cette orientation. Donc c'est vrai que cette question de, finalement, il y a tant de déterminismes sociaux, de genre, des déterminismes culturels, bien sûr, aussi, pour les enfants de migrants, et des déterminismes psychologiques. Dans la famille, on fait comme ci ou on fait pas comme ça, qui font que franchement, il faut augmenter les possibles pour ces adolescents. C'est important et c'est les engagements et c'est les adultes de demain.
Et vous dites, Marie-Rose Moreau, c'est une question politique.
Oui.
Alors qu'attendez-vous du politique avec un grand P dans ce domaine? Quelles paroles, quels actes peut-être pour changer cette représentation qui a l'air de dominer non seulement les idées qu'on a sur l'orientation, mais très clairement les faits, les choix et la vie donc des adolescents.
Oui, je l'ai dit et on l'a écrit dans ce rapport qui s'appelle Bien-être et santé des jeunes, que cette question de faire en sorte que les adolescents soient heureux à l'école, puissent faire des choses qu'ils n'ont même pas imaginées parfois. Moi, si on m'avait laissé, j'aurais fait de la philosophie. Mais finalement, j'ai dû faire de la médecine.
J'aurais fait de la médecine.
Je suis très heureuse d'avoir fait les deux, en réalité. Mais il fallait avoir cette détermination. Mais oui, c'est une question politique au sens de il faut qu'on se donne les moyens, il faut que nos représentations et nos manières de vivre, en particulier le collège, hein, parce que ça commence dès le collège. Et
l'orientation, complètement.
L'orientation, vraiment. Mais pas seulement l'orientation, c'est l'estime de soi en tant qu'adolescent et capable d'avoir des actions sur le monde ou d'aller au bout de ses engagements. Et donc, c'est à la fois la question de l'organisation de l'école, et ça, vous en savez plus que moi, mais c'est aussi le fait que ces adolescents, ils soient bien, heureux, tranquilles, compétents, et qu'on voit leurs compétences et qu'on croit dans leurs capacités. C'est pour ça que je pense que c'est pas qu'une question technique, c'est vraiment une question politique, au sens il faut mettre tous les moyens, il faut se donner les moyens de changer ces représentations.
William Lafleur, je vois écouter un peu réagir avec des expressions sur votre visage, sur certaines choses qui sont dites ici. On revient un peu au lycée avec vous. L'année de première, c'était aussi une année, on l'a un peu dit, mais c'était aussi une année où on pouvait mener des projets en classe, développer comme ça des enseignements thématisés sur plusieurs semaines parce qu'il y avait moins de pression, même si bac français, même si voilà. C'est quand même très sérieux. Est-ce que ça manque, ça, à l'école, des moments de respiration?
Oui, moi, j'y ai pensé là, tout à l'heure, quand vous parliez du choix des options, tout ça. Ouais, certes, mais en fait, j'aurais détesté être lycéen aujourd'hui. C'est atroce ce qu'on leur fait subir, en fait.
Je te rejoins complètement.
Ils sont sous pression constamment.
C'est ce que disent deux enseignants de lycée. Pour vous, Marianne.
Moi, j'ai beaucoup de compassion pour mes élèves. C'est pour ça que je suis gentil avec eux. Je leur donne peu de devoirs. Vraiment, je suis pas embêtant avec eux, parce que les pauvres, quoi. On leur met une pression dès la seconde, faut qu'ils fassent leur choix là avec la filière Parcoursup, ils en ont peur, pour eux c'est Big Brother. Là, il y en a qui ont peur d'être absents parce qu'ils ont peur que ça soit remonté dans Parcoursup, qu'ils aient pas le vœu qu'ils souhaitent. Enfin, ils sont effrayés, ils sont terrorisés. Et du coup, ouais, on fait pas des trucs très fun, parce que là, depuis 3 mois, on fait préparation aux E3C. Une fois que ça sera fini, ça sera préparation des prochains. Donc moi, je suis pas devenu enseignant pour faire ça, en fait. Je suis pas... Je travaille pas dans un centre d'examen à l'origine. Je travaille dans un lycée pour leur enseigner l'anglais, pour les ouvrir au monde. Et ça, ben, c'est plus ce qu'on fait. Et c'est ça qui désespère beaucoup de collègues. C'est qu'il y a une perte de sens dans notre métier qui est flagrante. Et on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est, je trouve ça plutôt terrible. Donc, oui, le choix politique, clairement, il n'est pas fait. Là. Cette réforme, ce bac, faut qu'on arrête 5 minutes. Le but, c'est de faire des économies, c'est clairement ça, parce que c'est du contrôle continu, donc c'est corrigé par les profs pendant l'année, sans leur donner de créneau, avec une paye de 50 euros, youpla boum, c'est la fête. Le but, c'est juste de faire des économies, donc faut arrêter de dire qu'on donne du choix aux élèves et compagnie.
Alors, ça a été dit aussi, on l'a dit avant la réforme, dans des émissions qu'on a organisées sur le sujet aussi, parce qu'on répartit un peu autrement les élèves. Vous savez aussi que la répartition des moyens dans l'éducation nationale, c'est une grande question entre les différents niveaux, premier et second degré, mais Édouard Geffray est là pour vous répondre, et aussi sur cette idée que plus personne n'a l'air de s'épanouir au lycée, ni les enseignants, ni les élèves. C'est assez terrible, hein, le constat qu'on vient de dresser.
Oui, mais je suis pas sûr de partager. D'abord parce que je connais beaucoup de jeunes, je parle de famille, et puis je connais beaucoup de jeunes qui sont au lycée. Et c'est pas forcément la tonalité des jeunes. Hein. Je ne parle pas des professeurs, là, je parle des élèves. On parlait tout à l'heure, je voudrais juste rebondir sur deux trucs très importants qui ont été dits. Le premier, c'est qu'on n'a pas répondu. C'est qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes qui sont en situation d'impossibilité parce qu'ils sont malades, hospitalisés, etc. Tout simplement, ils repasseront une épreuve plus tard, donc au moment où ils seront de retour. Il y aura une épreuve pour eux dans l'établissement, dans les mêmes conditions, je veux dire, horaires, etc., que s'ils étaient passés 2 mois avant.
C'est important de le dire.
Mais bien sûr qu'ils repasseront, ils ne seront pas, surtout pas pénalisés, et ça vous pouvez compter sur nous, on y verra. Donc voilà, vous pouvez vraiment les tranquilliser parce que c'est essentiel.
Même si vous dites que beaucoup d'élèves sont très heureux à l'école et au lycée, et on peut sûrement l'imaginer, est-ce que ça vous fait réfléchir ces constats-là qui sont dressés par des enseignants qui sont quand même sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous y pensez en ce moment au ministère?
Évidemment que ça fait réfléchir parce qu'on est tous animés par la même chose, c'est-à-dire le bien-être de nos élèves. C'est quand même ça le but. Mais tout à l'heure, madame disait le poids des déterminismes. Le poids des déterminismes...
Madame Moreau,
oui, tout à fait. Il se traduisait grosso modo, dans la voie générale, il se traduisait par 3 débouchés. Aujourd'hui, il se traduit par 450 combinaisons différentes constatées. C'est-à-dire que ces déterminismes, justement, on les a réduits. Et ça, il faut quand même... Je voudrais juste, si vous voulez, qu'on arrive à faire la différence entre ceux qui relèvent des inquiétudes, des questions, etc., autour de questions d'organisation, et puis ce qui est lié quelque part à la découverte et la mise en place d'un nouveau système, très bien, et quand même, à la fin, ce qu'on offre aux élèves, je ne sais pas le cas de Marianne, mais j'ai cru comprendre que vous n'avez probablement pas pu faire ce que vous avez choisi de faire cette année dans l'ancien système. Dans votre combinaison, je n'étais pas sûr, excusez-moi.
Certains établissements ne peuvent pas tout proposer non plus,
en termes d'équité, quand on regarde, on a considérablement augmenté la diversité, l'offre de formation au niveau territorial. Donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Je ne dis pas que tout est parfait, hein. Je ne suis pas là pour ça, et je suis le premier à poser des questions tous les jours.
Parce qu'il y a beaucoup de mécontentements quand même qui remontent du terrain. Donc,
oui, mais une fois encore, je crois qu'il faut distinguer ce qui relève des craintes autour de tout ce qui est organisation, etc., et finalement d'un délai de mise en place qui est inévitable, et donc il y a plein de choses qu'on est en train de régler, et puis ce qui relève du fond. Juste un point d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a déjà des ajustements qui ont été apportés, notamment en français. Puisqu'en français, on devait, si je reprends la voie générale, puisque c'est ce dont on parle pour l'instant, mais voilà, les élèves devaient présenter 24 textes à l'oral du baccalauréat. Des professeurs de français nous ont fait remonter, nombreux, que 24 c'était trop lourd, etc., qu'il fallait donc revoir la voilure. Qu'est-ce qui s'est passé tout début janvier? Oui, on a annoncé qu'on revenait sur une fourchette de 20 à 24 textes, parce que si on est qu'on
avait 24, on vous dit
possible,
que c'était un peu tard.
Et on est revenu à 20. Bah, écoutez, c'est peut-être un peu tard à 6 mois de l'objectif, mais n'empêche que ça, vous voyez, je veux dire, typiquement, ça fait partie des choses qu'on peut ajuster intelligemment et qui permettent de faire rebaisser la pression où
on vous a pas bien entendu, William Lafleur, qu'avez-vous dit?
On peut anticiper aussi.
Oui, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure par rapport à cette histoire de consultation. Pourquoi ne pas
avoir consulté massivement. Notamment, je veux revenir parce que vous parlez, vous dites donc il y a les questions d'organisation, il y a ce qu'on offre aux élèves et il y a le projet. Le projet, qu'il soit au niveau de l'évaluation, du changement du bac et plus généralement des exigences qui sont de M. Blanquer qui souhaite augmenter les exigences du bac qui jusqu'à présent auraient semblé perdre en valeur. Ma question, c'est pourquoi ne pas nous avoir mobilisés, notamment dans la conception des programmes? Ça, c'est une vraie question. Et dans la conception... Mais alors, quand je dis « nous », je ne dis pas quelques associations, mais vraiment, massivement, comme vous l'avez fait pour les élèves, tous 46 000 élèves.
Tous les programmes sont ouverts à la consultation publique et les professeurs peuvent mettre tous les commentaires qu'ils veulent dessus. Tous, sans exception. Et il y a eu des milliers de contributions. Peut-être que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas participé, ça c'est autre chose. Mais pour le coup, tous les programmes sont ouverts à consultation.
46 élèves ont été consultés. Nous n'avons pas reçu de petits mails personnalisés qui disaient « Cher enseignant de lettres, pourriez-vous donner votre avis ? Pourriez-vous, avec vraiment un item
46 élèves.
46 000. 000. Ah oui, pardon. Excusez-moi.
Okay, okay, mais c'était 46 000.
46 000 élèves.
Vraiment, enfin ça c'est quand même important. Il y a plusieurs choses. La première chose c'est que quand vous faites des consultations des professeurs, il y a des organisations syndicales qui les représentent, d'accord, et que c'est avec elles qu'on organise quand même prioritairement le dialogue social. Il y a des associations aussi professionnelles, associations de professeurs de lettres, de mathématiques, etc.
Qui ne sont pas très tendres avec cette réforme non plus.
Non, mais qui sont reçues, écoutées. Mon prédécesseur et moi-même, on passe plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'heures par an à ce type de discussion, et pas que nous. Et ensuite, tous les programmes sont ouverts à la consultation publique. On a d'ailleurs récemment ouvert les programmes de reprofessionnels. Il y a une mailing list professeurs qui s'adresse à tous les professeurs. Tous les professeurs de France ont vu que c'était ouvert et tout le monde peut contribuer. Donc, alors, voilà, après les gens s'en parlent ou pas,
là vous
mais ça existe.
Toujours pas d'accord. Un mot, parce qu'on a très peu de temps sur la baisse du nombre de candidats au concours du professorat. Cette baisse inquiète, elle inquiète aussi sur l'avenir tout simplement de l'école.
Bah, écoutez, alors d'abord, revenons un tout petit peu à des considérations générales. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui entre 160 000 et 180 000 personnes par an qui s'inscrivent au concours de l'enseignement. C'est-à-dire une personne sur 5 ou 6 par génération. Je ne connais pas une seule entreprise ou une seule administration qui reçoit 180 000 CV par an, premièrement. Deuxièmement, en revanche, il y a des effets disciplinaires qui sont très sensibles. Et notamment parce qu'il y a des filières qui, au niveau de l'université, en fait, se tarissent. Et ça, c'est dramatique. On a 4000 étudiants en master de mathématiques en France. On en recrute 1500 comme professeurs chaque année. Si demain on en forme plus, on peut en recruter plus. Mais ça, c'est un sujet.
Un sujet auquel nous consacrerons une émission. Merci à tous. Les références des ouvrages, des très intéressants ouvrages de Marie-Rose Moreau sont sur la page de l'émission, tout comme celles, les références des livres de William Lafleur qui étaient nos invités aujourd'hui. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Et c'est la leçon de choses avec Grégoire Solotareff, auteur et illustrateur. Il nous parle de son enfance passée entre l'Égypte, le Liban et la Bretagne où il va trouver refuge.
Alors les premières images, c'est le Liban en fait, parce que je suis arrivé à 3 ans. Avant donc, les souvenirs sont mélangés à des choses rapportées ou à des photos, des choses comme ça. Mais je me souviens bien du Liban, des forêts du Liban, de notre quartier aussi, du quartier où on habitait, à Achrafieh, qui avait vue sur la mer, de loin, et aussi des champs d'oliviers, des champs d'orangers. Voilà.
Vous êtes issu d'un couple à l'histoire très romanesque, hein, je crois.
Oui, ma mère est née à Paris, en fait, de parents russes qui étaient venus faire leurs études ici. Et puis, les choses, la vie, la guerre, tout ça, l'amènent à Alexandrie. Et puis, elle rencontre mon père là-bas, et c'est le coup de foudre.
Et viennent 4 enfants, dont vous.
Oui.
Elle vous en parlait de son enfance à elle.
Elle nous parlait beaucoup de son enfance. Oui, une enfance pas très heureuse d'ailleurs, en tant qu'étrangère dans une ville Soissons. L'école s'était assez mal passée pour les enfants. Ils étaient 4 aussi. Et j'étais mal reçu en tant qu'étranger. Et donc, une assez grande inadaptation, en fait, à l'école. Ce qui fait d'ailleurs que ma mère nous a ensuite fait éviter l'école jusqu'à un âge assez avancé.
Mais c'est pour ça que votre école, enfin vos années de maternelle et de primaire, vous, vous les avez passées à la maison. C'est elle qui vous enseignait le français, les maths, enfin les disciplines. Elle faisait l'école à la maison.
Oui, elle faisait l'école à la maison pour nous quatre. Je me souviens des cours de latin, par exemple, en Bretagne.
Vous parlez de la Bretagne, parce que à l'issue de ces quelques années passées au Liban, la situation politique commence à dégénérer et vous quittez le Liban pour la Bretagne. Mais quels souvenirs en gardez-vous, vous, Grégoire Solotareff, petit garçon, de ce sentiment de menace hein, qui vous entourait là-bas? Est-ce que vous le perceviez?
Alors, on le perçoit un peu indirectement, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas le danger exact, ni le danger immédiat, mais on sent qu'il s'agit de partir. Et puis, on arrive en France, et là, on va vivre en Bretagne pendant un an et demi.
C'est très différent, la Bretagne. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce changement de vie?
Les enfants acceptent beaucoup de choses, hein. Surtout, c'est des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on se retrouve en Bretagne, et tout d'un coup, c'est calme, c'est beau, il y a la mer, il ne se passe rien dehors. On passe d'une situation conflictuelle, une situation dangereuse où, quand on va à la plage, on se cache au fond de la voiture pour pas se voir une balle perdue. ça, c'est le Liban d'il y a 60 ans. La Bretagne était une période très importante pour moi, dans le sens que c'était, contrairement au Liban, ou à Beyrouth en particulier, où la nature a disparu totalement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'oiseaux, tous les oiseaux sont chassés, sont tués, les chiens sont abandonnés ou maltraités. Donc là, en Bretagne, tout d'un coup, les oiseaux dans le jardin, les oiseaux qui approchent de la maison, c'était complètement exotique pour nous. C'était le bonheur total.
On a coutume de dire, Grégoire Solotareff, que dans vos livres, il y a toujours une sorte de menace qui plane. Enfin, ils font un peu peur parfois. Ils prennent pas les enfants pour des imbéciles.
Oui, sans doute, la menace existe dans mes histoires, probablement. Mais disons que pour tirer le fil d'une histoire, il faut une menace.
À propos d'histoire et de menaces, Grégoire Solotareff vient de publier une histoire de vampire à l'école des loisirs. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Être et Savoir à 17h sur France Culture. Et vous pouvez évidemment nous écouter quand vous le souhaitez en podcast.